Ils sont sportifs de haut niveau, valides ou handicapés. Ils semblent dotés d'un cerveau en béton armé pour accéder aux plus hautes marches des podiums. Comment se façonne le mental de ces champions et quelle est la part psychologique dans le chemin menant à la victoire? C'est le dossier de l'émission cet après-midi pour comprendre comment se préparent justement les grands sportifs, pour savoir comment ils parviennent à accomplir leurs performances et quels sont les ressorts qui leur permettent de transcender leurs difficultés pour se surpasser. J'attends dès maintenant vos messages et vos questions sur le site de l'émission. À la une de la science aujourd'hui, l'impact de la pollution sonore d'origine humaine sur les animaux marins. Axel Villard, bonjour.
Oui, bonjour Mathieu. Les bruits des hommes dans les océans sont en forte augmentation et on découvre petit à petit les conséquences de cette pollution du vacarme dans l'océan. C'est aujourd'hui à la une de la science.
Stéphanie Texier réalise cette tête au carré préparée aujourd'hui par Chantal Le Montagnier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Villard.
Le mental des champions, donc aujourd'hui dans le dossier de l'émission avec mes invités, les psychologues Myriam Salmi et Hubert Ripoll. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Et le champion de tennis et porte-drapeau de la délégation française au JO de Rio, Mickaël Jérémiaz. Bonjour à vous.
Bonjour.
Mickaël Jérémiaz, est-ce qu'il y a un effet baby blues après une compétition comme les JO?
Oui, un effet baby blues. On a été quelques athlètes à s'appeler et à faire ce petit constat qu'en fait c'est triste, c'est une colonie de vacances qui se termine. Mais moi j'ai un baby aussi à la maison,
un vrai baby
qui occupe bien aussi mes journées. Et puis moi je suis sur la deuxième partie de ma carrière là maintenant, donc je m'ennuie pas. Mais c'est vrai qu'il me manque tous.
Myriam Salmi, est-ce qu'on peut parler d'un véritable entraînement psychologique pour un champion?
Oui, tout à fait.
Au même titre que l'entraînement physique.
C'est ce que j'allais rajouter. C'est exactement. De cette façon, en tout cas, que nous, on l'envisage quand on travaille ensemble, c'est-à-dire moi et les sportifs dont je m'occupe, ou moi et les entraîneurs, ou DTN, tout l'ensemble du monde sportif qui a envie de se questionner sur cet aspect.
Oui, on verra justement le caractère prépondérant justement de la prise en charge psychologique et de ce travail dans le parcours d'un sportif. Hubert Ripoll, pour les personnes handicapées, le sport, c'est un véritable terrain de résilience, c'est le thème de votre livre chez Odile Jacob.
Oui, très certainement pour moi, le terrain de résilience le plus favorable qui soit entre toutes les activités sociales qui sont très variées que l'on a à notre disposition, mais le sport avant tout, j'en suis intimement persuadé.
Ouais, et vous avez rencontré visiblement des champions qui vous ont passionné, 24 d'entre eux sont justement dans cet ouvrage, on va en discuter avec vous, on se retrouve dans un instant donc pour discuter de ce mental des champions avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque.
La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net. Le quotidien de l'écologie.
Et la pollution sonore des océans, notre sujet à la une de la science aujourd'hui. Et des vocalises d'orques, voilà, vous les entendez, elles sont au milieu des moteurs de paquebots dans les eaux du port de Vancouver, en l'occurrence, pour illustrer ce sujet encore mal connu du bruit sous-marin. Samedi, s'est terminé à Paris le colloque Vacarme dans l'océan que vous co-organisez. Hervé Demez, bonjour.
Bonjour.
Avec Héloïse Berkowitz, vous êtes professeur à Polytechnique et directeur de l'Institut interdisciplinaire de l'innovation. Et puis également avec nous pour discuter de ce sujet, comme tous les lundis, Hervé Kems, avec le magazine reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Depuis quand les scientifiques s'intéressent à la pollution sonore des océans, Hervé, exactement?
Eh bien depuis une vingtaine d'années, notamment quand en 1996, sur les rives de la Grèce, une douzaine de baleines à bec de Cuvier se sont échouées et les chercheurs se sont rendus compte que c'était lié à des sonars à basse fréquence qui étaient utilisés à proximité par des navires de l'OTAN. Et donc depuis, il y a eu énormément d'échouages, notamment de cétacés, qui a fait avancer la science et l'analyse de ces problèmes. Et on s'est rendu compte que les sonars militaires, mais aussi le trafic maritime, les sondages pétroliers, voire les constructions d'éoliennes marines, avaient des effets sur les cétacés, notamment parce qu'elles affectent elle perturbe l'ouïe, qui est le sens premier des mammifères marins. Mais on s'est aussi rendu compte que ça avait des conséquences sur les invertébrés, comme les mollusques et les calamars. Mmh. Et comme les activités maritimes ne cessent de se multiplier en ce moment, il y a un vrai problème écologique qui se pose. Et donc, il y a eu ce colloque organisé à Paris, à la Maison de l'Océan, le 20 septembre dernier.
C'est un moment important d'ailleurs, autour de ce sujet, Axel.
Oui, Hervé Demez, Hervé Kempf a cité quelques exemples. Quels sont les bruits les plus dommageables pour les animaux marins?
Alors, il y a deux types de bruit. Il y a le bruit continu, qui est celui, par exemple, des navires. Et puis, il y a le bruit impulsif, qui est celui des sondages pétroliers ou, ça a été mentionné, des enfoncements de pieux pour les éoliennes. Et donc, ce sont ces deux bruits qui, ces deux bruits assez différents qui ont des effets sur les animaux.
Et les conséquences sont différentes en fonction du type de bruit?
Les conséquences sont différentes, c'est-à-dire que là, on a entendu un mammifère qui dialoguait avec ses congénères, et s'il y a un bruit de fond important, ça perturbe la communication de ces animaux dans des périodes qui sont délicates comme la chasse ou la saison des amours.
Ouais, ça se passait dans le port de Vancouver, et ça n'est pas pour rien qu'on a choisi cet extrait justement, Axel, puisque c'est là que les premières mesures ont été prises hein, pour baisser les nuisances sonores.
Effectivement, le port de Vancouver est en pointe sur ces questions et a mis en place un certain nombre de mesures, de régulation pour essayer de ne pas perturber trop les mammifères marins qui sont très présents dans cette région.
Mais est-ce qu'on peut préciser un petit peu le mot nuisance? Est-ce que ce bruit a un impact directement sur la physiologie des animaux ou on parle de perturbation plus largement?
Alors, on a mentionné les sonars et on a de bonnes raisons de penser que les sonars sont à la base d'échouages de baleines, comme il a été dit. Donc là, on a la mort des animaux, c'est l'aspect le plus dramatique du problème. On l'a mentionné aussi, on s'est aperçu que des animaux qui n'avaient pas d'oreilles, qui ne discutaient pas, qui ne communiquaient pas, mais qui avaient une oreille interne, comme nous l'avons, qui permet l'équilibre des animaux, pouvaient eux aussi avoir leur être en fait menacés de mort par les sonars. Et puis après, il y a des lésions possibles dont on ne sait pas encore très bien quelles sont les conséquences. Et puis sinon, il y a la perturbation des comportements, encore une fois, de pêche ou de reproduction.
Hervé Kempfer.
Alors, quelles sont les mesures justement qu'il est possible de prendre et sont-elles capables d'annuler ce bruit?
Alors, il existe des solutions techniques, à la fois pour les éoliennes, par exemple, on peut essayer de faire des rideaux de bulles autour des constructions d'éoliennes qui retiennent le bruit. Ça marche assez bien, mais pas à 100% parce que tout dépend de l'état de la mer. L'industrie pétrolière travaille sur des instruments d'exploration qui seraient beaucoup moins nuisibles que les instruments actuellement utilisés. Et on sait faire des navires beaucoup plus silencieux à la conception, ce qui ne coûte pas trop cher parce que le gros problème, évidemment, c'est le coût.
Vous l'avez dit, les animaux ne font pas qu'entendre, ils ressentent le bruit dans l'océan. Comment on fait quand on est chercheur pour se mettre à la place d'un dauphin, par exemple, qui passerait à côté d'un port, pour comprendre l'impact?
C'est une bonne question.
Alors, lors de la conférence, un des chercheurs a essayé de donner l'équivalent pour un animal de ce qu'il peut sentir en utilisant des bruits humains. Donc c'est ce qu'on entendait dans le reportage que vous avez passé, dans l'enregistrement que vous avez passé, c'est-à-dire qu'il y a si vous êtes dans un cocktail avec un bruit de fond important. Il y a des types de communication comme ceux des dauphins qui sont par clic qui ne passent plus en fait. Et donc on voit comment la communication entre les animaux peut être profondément perturbée par le bruit ambiant.
Mais on arrive vraiment aujourd'hui à mesurer l'impact global de cette pollution sur les animaux marins, savoir combien d'espèces sont touchées en particulier?
Alors ça c'est très difficile, c'est-à-dire qu'on n'a pas de vision globale du problème, mais on a ce qu'on a appelé avec Héloïse Berkowitz un faisceau d'indices graves et concordants, c'est-à-dire qu'on a des études, effectivement les premières études portaient sur les mammifères marins, ce qui était le plus évident. Une des grandes découvertes de Michel André, qui est un des grands spécialistes du sujet, a été de montrer que ça pouvait toucher les calamars géants, donc des espèces qui n'étaient dont personne ne pensait qu'elles pouvaient être
sensibles
par ce type de problème.
On nage un petit peu dans ce problème, si j'ose dire, mais est-ce qu'il y a un indice synthétique qui permettrait d'appréhender l'évolution précise de ce bruit sous-marin?
Alors, on a des indications. On pense que le bruit a été multiplié dans certaines zones par 10 dans les années récentes. Donc, c'est un problème qui est vraiment très important et qui est en voie d'aggravation. Donc, c'est le moment de réagir et c'est le moment d'essayer de trouver des solutions, ce qui implique des acteurs extrêmement divers. et extrêmement nombreux, ce qui est la difficulté du problème de gestion. Moi, je suis chercheur en gestion et c'est ça qui m'intéresse dans le sujet, cette difficulté d'un problème de gestion multi-acteurs sur une échelle énorme et dans un cadre qui n'est pas fixé comme le cadre des problèmes de gestion dans les entreprises telles qu'on les rencontre habituellement.
Hervé Demes, est-ce qu'il existe des pays qui limitent le bruit dans leurs eaux territoriales et qui commencent à le faire ?
Alors, tous les pays européens commencent à le faire parce que la Commission européenne est intervenue sur le sujet. Des pays sont en pointe. Par exemple, l'Allemagne a pris des mesures autour des parcs éoliens pour essayer de vraiment limiter le bruit à la construction. Et tous les pays européens sont censés passer la directive, transposer la directive européenne dans leur législation et ils sont tous en train de travailler sur ce sujet.
Bon, on a le sentiment qu'on est passé quand même à la vitesse supérieure sur la prise de conscience, au moins, de ces nuisances sonores dans les océans. Et puis donc ce colloque qui s'est déroulé la semaine dernière, Vacarme dans l'océan. Merci beaucoup Hervé Demes. Hervé Kempf, on retrouve ce sujet dans les pages de reporter.net, surtout en cliquant sur Internet,
en l'occurrence.
Voilà. Et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Merci beaucoup. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les chats responsables d'une soixantaine d'extinctions de mammifères d'oiseaux et de reptiles depuis 500 ans. Ce chiffre, publié par une université australienne, nous rappelle que nos félins préférés sont également des espèces invasives. Ils sont responsables de nombreux désastres écologiques partout dans le monde, mais surtout dans les îles où les populations endémiques ne sont pas habituées à leur présence. Dans le classement des espèces invasives les plus dommageables pour la biodiversité, les chats donc arrivent deuxième derrière le rat noir. Ils sont suivis des renards, des chiens et des cochons. La Chine vient de mettre en route le télescope FAST, le télescope le plus large au monde, construit en 5 ans entre deux montagnes de la province de Guizhou, au sud-ouest de Pékin. Sa coupole sphérique de 500 mètres de diamètre est très impressionnante. Les observations scientifiques officielles devraient débuter dès aujourd'hui en quête d'étoiles, de galaxies et de mondes nouveaux avec une résolution deux fois plus grande que les grands télescopes actuels. Déjà surnommé Tianyang, les yeux du paradis, ce petit bijou à 260 millions de dollars sera accessible aux chercheurs du monde entier, mais également aux touristes. Et puis si les moustiques préfèrent généralement piquer les hommes plutôt que les animaux, c'est pour des raisons génétiques et c'est un élément important dans la lutte contre les maladies transmises par ces insectes. En mettant le doigt pour la première fois sur un gène en particulier nommé 3RA qui rend parfois le moustique plus friand de vaches que d'hommes, des chercheurs californiens espèrent apporter une aide précieuse à la lutte sur le terrain. La gestion des populations locales de moustiques en fonction de leur génome sera certainement possible bientôt pour ne sélectionner que les individus mutés se nourrissant sur le bétail. Allez, le mental des champions, c'est le dossier de la tête au carré dans un instant. J'attends vos messages et vos questions, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque pour nous rejoindre. Bon après-midi avec nous. Clearly meant for more than a lifelong.
c'est juste quelque chose d'énorme. Le rêve olympique qui se réalise, c'est grandiose. Attendre 4 ans pour une journée, c'est à la fois long, mais c'est à la fois bon quand on arrive à aller au bout de la journée. Ouais. J'avais un peu de pression parce que j'avais peur de mal faire. J'avais peur de glisser sur le tapis. De glisser sur le tapis parce que quand tu viens avec une détermination, un défi de réussir, forcément tu n'as pas envie d'échouer. Et il y avait peut-être cette pression de... Pas la peur des adversaires, mais cette pression qui disait il faut que tu réussisses à te lâcher, que tu réussisses à faire du beau judo, que tu te fasses plaisir et que la malchance ne soit pas avec toi.
Voilà, Teddy Riner, pour parler du mental des champions, il y a plein de choses dans ce qu'il vient de dire justement pour faire réagir mes invités et entamer cette discussion, dossier de la tête au carré, pour en parler. Myriam Salmi, vous êtes psychologue, psychothérapeute auprès de sportifs de haut niveau, dont Teddy Riner justement, ou Romain Grosjean, mais il y en a beaucoup d'autres. Hubert Ripoll, vous êtes psychologue du sport, spécialiste en neurosciences et président de la Société française de psychologie du sport, et vous publiez La résilience par le sport chez Odile Jacob, un livre dans lequel vous racontez justement vos dialogues avec 24 champions français handicapés. Et puis Michael Jérémias, vous êtes champion de tennis, en fauteuil, quadruple médaillé olympique et vous avez été le porte-drapeau de la délégation française au JO de Rio. Teddy Riner disait dans ce son, Michael Jérémias, 4 ans pour une journée. Ça résume un peu, au fond, la tension cristallisée autour d'une compétition comme les JO.
Oui, alors lui c'est sur une journée parce qu'il fait du judo, nous sur le tennis c'est sur une dizaine de jours, c'est ouais. Dans la totalité des jeux. Oui, c'est-à-dire que pour des sports amateurs, même si ça se professionnalise, le mouvement d'e-sport et le judo, notamment grâce à un Teddy Riner, ouais. C'est le moment de notre carrière, c'est le point d'orgue de notre carrière. On n'a pas des championnats du monde extrêmement médiatisés, on n'a pas des événements toute l'année comme au foot, comme au rugby maintenant ou encore au tennis valide. Et donc voilà, effectivement, nous c'est le moment où on veut briller ouais. Absolument, c'est là où il y a tous ces enjeux-là et donc c'est des années, alors des fois 4, des fois 8, parce que ça. Bon, lui était il y a 4 ans, moi aussi, donc on a cette chance-là. On repart à zéro dès le lendemain des Jeux pour préparer ceux d'après. Et c'est 4 ans de sacrifice avec un seul objectif, c'est d'aller briller ouais. Le jour J. Et ouais. c'est énormément de pression, énormément de responsabilité parce qu'on emmène beaucoup de gens avec nous quand on fait ça. On le fait pas seul. On emmène nos proches, nos familles, les gens qu'on aime, qui nous aiment, et puis tout un staff. Et donc il faut savoir gérer tout ça pour être le plus performant et atteindre ouais. Ses objectifs.
Teddy Riner disait, j'étais obsédé par le fait de glisser. C'était visiblement son obsession du moment. Vous en avez une à chaque fois, finalement, quand vous êtes en compétition, comme ça ou pas?
Non, mais lui, voilà, il y avait deux choses moi que j'ai retenues, c'est de se lâcher et de prendre du plaisir. Et en fait, c'est ça la clé pour un certain nombre de sportifs, pas tous, hein, mais en tout cas, moi, ça me parle, parce que moi, j'ai jamais été aussi bon que quand je prenais du plaisir sur le terrain. Quand j'étais là où je devais être, que j'avais pas de frustration à me dire, bah là, je suis là, mais j'ai mon fils à la maison, alors je devrais être à côté de lui. Non, je suis là où je dois ouais. Être et je prends du plaisir. Et on se retrouve là-dessus, on se connaît bien avec Teddy, et pas uniquement parce qu'on était tous les deux les porte-drapeaux pour ouais. Rio, mais on s'entraîne à l'INSEP et donc on a souvent échangé et effectivement ce qui anime un certain nombre de sportifs, et c'est pour ça qu'il a réussi, c'est qu'on voyait que depuis le premier jour il prenait du plaisir ouais. À commencer par l'entrée dans le stade Maracana.
Voilà, Myriam Salmi déjà et Hubert Ripoll des ingrédients dans les propos de Michael Jérémias. Myriam Salmi, de nombreux athlètes de haut niveau donc viennent vous voir dans votre cabinet de psychologue où vous les accompagnez aussi à l'occasion des compétitions. Depuis quand justement les sportifs ont pris conscience que le mental était une part absolument essentielle dans le processus du jeu?
Je pense que cette question, elle a toujours été présente. Alors, pour parler de prise de conscience importante, là, on est dans un paradoxe, constamment. C'est-à-dire que le mental, on en entend toujours parler. Mmh. Mais si vous interrogez, et qu'on sait, moi j'aime bien les choses concrètes, et qu'on prend les chiffres, et qu'on voit qu'il a fallu attendre, par exemple... Et n'y voyez pas d'attaque, c'est une réalité, je cite, hein, il ne faut pas le voir comme quelque chose, une revendication militante. Moi, mon travail, c'est de faire avancer les choses aussi par rapport à la tête des athlètes. Il n'y a jamais eu de psychologue dans la délégation française aux Jeux Olympiques, qui est une compétition majeure, et Michael vient d'en parler, tout le monde en parle, ouais, tous
avec,
les athlètes.
Avec la pression qu'on a entendue dans ses propos. Ouais.
L'idée, c'est qu'effectivement, si c'était aussi important que ça, on aurait donné les moyens à ce que cet aspect-là soit aussi un élément majeur de l'accompagnement des athlètes. Ce n'est pas le cas. Moi, j'aime bien les choses concrètes.
Donc, il n'y a pas de psychologue.
Alors, il y en a eu une. Il se trouve que c'était moi dans la délégation française de Pékin. Mais après, il n'y en a pas eu. Donc, moi, j'y suis allée parce que j'ai été conviée par des athlètes à les accompagner. Donc, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Je tiens aussi à défendre des choses pour les athlètes français et pour nous, français. Je pense qu'on peut faire mieux. Je ne dis pas que parce qu'on a un psychologue... on va avoir des performances exceptionnelles. Je défends pas ça. Hein.
Ouais, ouais.
Je défends que pour moi, c'est une entité incontournable aujourd'hui.
Et la France est particulièrement à la traîne dans ce domaine-là ? C'est-à-dire que chez les anglo-saxons...
Par rapport aux grandes nations du sport, oui.
Ouais. Hubert Hippol.
Oui, ben, en France, il n'y a pas de comité d'accréditation des psychologues du sport. Je me suis battu en tant que président de la Société française de psychologie du sport pendant des années.
Ouais.
J'ai questionné les ministres et les cabinets. Et rien n'a jamais été ouvert. Et ça, c'est à la différence de tous les pays. Ce qui veut dire qu'actuellement, n'importe qui peut être, je ne dis pas psychologue, mais intervenant, accompagnant. Et là, ça peut être extrêmement grave.
Ouais. Mais est-ce que les entraîneurs n'ont pas ce rôle-là, finalement, auprès de leurs athlètes,
hein ? Bah, dans ma dernière enquête, tous les entraîneurs de haut niveau avec qui j'ai travaillé, tous avaient un accompagnant, tous, ouais. Et tous les athlètes. Ce qui veut dire que les accompagnants sont là, avec différents statuts.
C'est ça.
Pour autant, sont-ils tous qualifiés ? C'est une autre question.
Michael Jérémiaz, alors.
Non, mais c'est effectivement un des outils de la performance auxquels on a peu accès. Je pense que, oui, c'est un peu culturel. Par rapport à d'autres grandes nations européennes, notamment, je pense aux Anglais, on a peut-être un peu de retard sur cette question-là. Effectivement, quand on va aux Jeux Paralympiques, on a, si je prends le tennis, on a un staff technique. C'est-à-dire qu'on a des entraîneurs, on a des préparateurs physiques, on a, pour tous les athlètes, un staff médical, c'est-à-dire un médecin, des kinés, ostéo. Mais il n'y a pas, d'accompagnement.
Le docteur de la tête. Hein.
Voilà, il n'y a pas d'accompagnement psychologique du sportif. Alors, c'est quelque chose aussi de très personnel. On peut avoir un kiné qui n'est pas forcément votre kiné, qui peut tout à fait s'occuper de vous pendant une compétition, même si c'est mieux d'avoir le sien. Après, moi, c'est aussi comme ça que moi, j'ai toujours voulu travailler. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas un psychologue du sport pour 126 athlètes. En tout cas, la délégation paralympique, c'est quelque chose que j'estime de beaucoup plus personnel. Maintenant, aujourd'hui, c'est une vraie évolution. On est en train de parler des états généraux du sport, de comment on va faire pour maintenant, pour
les Olympiques,
se rapprocher des Anglais ou des Allemands dans le top 5 et pour les Paralympiques d'être dans le top 10, bah, ce sera une des questions à se poser. Effectivement, ça contribue à la performance.
Qui fait office de psychologue autour de vous, alors, dans votre staff?
Personne de qualifié
pour
aller dans le sens du bas.
Mais vous avez quand même quelqu'un qui vous soutient
particulièrement. Parce que moi, j'en ai fait le choix. Moi, après mon accident, j'ai entamé une psychothérapie pendant, pendant un peu plus de deux ans. Après, je suis devenu sportif de haut niveau, donc c'était très compliqué pour moi qu'il y ait une cohérence dans ce suivi-là. Et aussi parce que, effectivement, j'allais mieux dans ma vie. Alors, j'étais loin d'avoir fait le tour de la question. Je pense qu'on le fait d'ailleurs jamais.
Mmh.
Mais simplement, il y a des gens, et notamment mon grand frère, dont je suis extrêmement proche et qui lui a un rapport à la psychanalyse qui m'intéresse et est extrêmement sensible et intelligent et subtil. Et donc, oui, effectivement.
Il vous allongeait sur le divan ou pas?
Non, c'est pas encore logé sur le divan, mais on a cette proximité qui fait que pour des choses importantes de ma vie, c'est quelqu'un avec qui je peux partager un certain nombre de choses. Mais sur la psychologie du sport, oui, j'ai pas travaillé avec des spécialistes.
Myriam Salmi, trépigne.
Mais c'est surtout que je trouve intéressant parce que c'est l'état des lieux aujourd'hui. En fait, le mot psychologue est aussi un adjectif en France. Donc on est psychologue, c'est dans le littré, ça sous-entend qu'il n'y a pas de compétences nécessaires. Tout le monde peut occuper cette fonction. Ça sous-entend parce que c'est un adjectif, mais c'est passé dans le langage commun. Donc c'est pour ça que notre travail à nous psychologues, c'est aussi d'informer et de faire savoir ce que c'est que ce métier de psychologue et surtout ce que ça apporte et ce qu'on peut, là où on intervient. Et souvent aussi, la deuxième chose, c'est que c'est assez péjoratif, hein, c'est faiblesse. Donc, dans le monde des sportifs, dans le monde des champions, c'est assez paradoxal et pas très accepté. Bon, et puis par ailleurs aussi, on confond psychologie, psychiatrie, on ne sait pas trop. Hein, donc, c'est important de rappeler ce que c'est que la psychologie. Et pour être tout à fait, pour une définition simple, c'est l'étude du comportement humain.
Ouais.
Alors après, il y a des déclinaisons.
Enfin, en même temps, il y a des champions et des grands costauds comme Teddy Riner qui revendiquent clairement aussi le fait d'avoir affaire à des gens comme vous. Hein.
Mais depuis l'âge de 14 ans et demi.
Oui, c'est ça.
Et il le dit régulièrement en disant « je ne comprends pas qu'on ne m'écoute pas sur cette question ». Vous parliez tout à l'heure, Hubert, des démarches que vous avez faites. On les a faites aussi dans différentes instances ministérielles, dans nos institutions, à l'INSEP et autres, pour essayer de faire avancer cette question pour l'ensemble du monde sportif, pas seulement les athlètes, aussi pour l'encadrement, qui sont souvent seuls.
Bien, donc ça c'est l'état des lieux, évidemment constat sur ce qui se passe en France. Hubert Hippol, vous publiez donc La résilience par le sport, là vous êtes intéressé vraiment aux sportifs handicapés, et c'est quoi? C'est tout le processus de dépassement justement qui vous a intéressé chez ces personnes en particulier?
Ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre comment des personnes qui sont à ce point blessées sont capables de se dresser pour accomplir l'impensable, alors que la plupart d'entre nous ne savons même pas où est l'impensable. Et donc, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a qui fait que, après une blessure de ce type-là, qu'elle soit de naissance ou qu'elle soit de la vie, comment se relève-t-on et comment fait-on quelque chose de sa blessure, qui est donc la définition de la résilience? Voilà, c'est ce qui m'intéressait. Et je me suis dit, à la fois, ça va me permettre de comprendre comment il fonctionne, et en comprenant comment il fonctionne, je comprendrai comment une personne valide fonctionne. Et c'est ce qui me paraît particulièrement important.
Et vous avez croisé donc les propos des uns et des autres?
Alors oui, comme dans toutes mes enquêtes, je prends des individus qui sont différents de par le sexe, moitié homme, ils sont une moitié homme, une moitié femme, avec des handicaps qui sont différents, 24 handicaps différents.
Soit des handicaps de naissance, soit des handicaps survenus au cours du parcours.
Moitié handicap de naissance, moitié handicap de la vie, des cultures différentes, des aspirations différentes, et ce que je cherche, c'est le dénominateur commun. Et s'il y a un dénominateur commun qui est que tous a priori en résilié, ce dénominateur commun peut me renseigner sur ce qu'est la résilience, ce qui me permet de communiquer là-dessus et d'expliquer, d'une part, à ceux qui sont, entre guillemets, fraîchement handicapés, bien, comment leurs pères se sont organisés pour résilier, et porter un message aux accompagnants de personnes qui sont fraîchement handicapées, pour leur dire, voilà, quelles sont les meilleures conditions qui permettent à un individu de résilier et de résilier par le sport.
Alors ces conditions, évidemment, on va en discuter dans un instant avec vous. Michael Jérémien, juste un mot, à partir de quand le public français a pris conscience de la portée du sport handicapé, justement? Ça aussi, c'est quelque chose de très récent?
Oui, c'est assez récent. Ils ont pris conscience quand les médias ont finalement décidé de leur montrer ce dont on était capable et non pas ce dont on était incapable, puisque c'est quand même ce qui se passe. La médiatisation de la question du handicap depuis des décennies, c'est à travers la maladie, à travers la souffrance, à travers des reportages où on parle d'accidents. Voilà, il y a toute cette sémantique-là. Le sport, la performance, la réussite, le succès, c'est jamais assimilé au handicap. Et là, les Jeux Paralympiques cette année, avec les diffusions, plus de 100 heures de direct sur le service public, a fait qu'il y a eu cette prise de conscience.
C'est ça, mais c'est très frais quand même.
Oui, bien sûr, et un engouement populaire important. Mais juste pour rebondir sur ce que vient de dire Hubert sur la résilience par le sport, alors bon, évidemment, moi ça me parle, puisque j'ai eu un accident il y a maintenant 16 ans.
Vous aviez 19 ans,
j'avais 18 ans, j'ai eu un accident de ski, donc je suis devenu paraplégique. Et donc je me suis reconstruit dans ma vie de très jeune adulte, et notamment par le sport. Là, on ne parle pas de sport de haut niveau, il n'y a pas besoin de faire du sport de haut niveau pour se reconstruire par le sport. Mais moi, ça a été un formidable outil d'autonomie. C'est-à-dire qu'en fait, le sport, pour moi, quand j'ai eu mon accident, c'est ce qui m'a permis de sortir de ma chambre d'hôpital, c'est ce qui m'a permis d'aller sur un fauteuil roulant, ce qui m'a permis d'aller découvrir ce qui se passait dans l'étage du dessous, ce qui se passait ailleurs, ce qui m'a permis d'aller rencontrer d'autres personnes, de créer aussi du lien social dans les salles de sport où on allait renforcer notre haut du corps qui était remplacé notre bas du corps. Et donc c'est effectivement un formidable outil, et ça me parle. Bon, j'espère qu'on aura le temps d'en parler tout à l'heure, mais moi j'ai cofondé il y a un peu plus de 5 ans une association, l'association Comme les Autres, avec mon grand frère et ma femme, où on accompagne des personnes victimes d'accidents de la vie, donc des personnes handicapées, dans leur parcours de reconstruction. Et l'outil principal qu'on a, c'est pas unique, parce qu'on pourra en reparler, malheureusement il n'y a pas que le sport, c'est pas universel au point que 100% des personnes accidentées se reconstruisent grâce à ça, mais la plupart d'entre eux. Et donc on organise des séjours sportifs à sensation forte juste après la sortie du centre d'éducation, qui permettent un peu qui servent de piqûre d'adrénaline et de montrer un petit peu le champ des possibles à des personnes à qui finalement on a dit qu'on pourrait plus faire grand chose. Et bon, bref, moi en tout cas, voilà, c'est une thématique qui me tient à cœur, la résilience, notamment la résilience par le sport.
Et la résilience pour les personnes handicapées et le mental des champions, qu'ils soient handicapés ou valides, parce qu'évidemment les choses se croisent, on va en parler avec vous dans un instant. Les messages des auditeurs arrivent sur franceinter.fr.
Regarde un peu les survivants, ils ont des larmes au fond des dents. Ils voudraient changer d'autoroute, mais c'est pas comme ça qu'on s'y prend. Ne fais plus confiance à personne, c'est la devise des naufragés. Y a toujours un con qui klaxonne pour qu'on continue d'avancer. C'est beau la vie quand on y pense, un peu moins quand on la dépense. À s'énerver toute la journée, on finit par tout oublier. N'ayons plus peur de l'essentiel, n'oublions pas d'être fidèles. regarde un peu vers l'horizon. C'est la nouvelle génération qui n'a pas connu l'oppression, mais lève le bras pour la nation. Regarde un peu la gueule des morts. On dirait Pépé qui s'endort après les prochaines élections. Faudra peut-être s'enfuir en avion. Et si tu m'emmènes à Tokyo, je prendrai sûrement quelques photos. Mais si tu m'emmènes à Pyongyang, j'ai bien peur d'avaler ma langue. Si tu m'emmènes à Hollywood, j'irai moonwalker dans la foule.
C'est Beau la vie avec Mickey 3D sur France Inter.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
I am very happy to win a championship all the world from great champions like Tony Zell. Avant mon combat, je vous avais déclaré que j'allais me battre avec tout mon cœur et que votre pensée serait toujours avec moi. Maintenant, je suis champion du monde et croyez-moi que j'ai bien pensé à vous pendant tout ce combat-là. Et c'est bien un peu grâce à vous que je suis actuellement champion du monde. Aussi, ma joie d'avoir gagné ce titre avec tous les êtres que j'aime le plus ici, avec la joie d'avoir eu mon frère qui, 21 ans que je n'avais pas vu, est arrivé dans mon coin pour ce grand combat, pour moi c'était la plus grande joie que j'ai eue. C'est vraiment le plus beau jour de ma vie.
Voilà, Marcel Cerdan, 1948, champion du monde de boxe après sa victoire le 21 septembre, et ses propos qu'il tient, grâce à vous, les êtres que j'aime. Myriam Salmi, ça c'est absolument essentiel, hein, dans ce que vous observez en tout cas du mental des champions, c'est-à-dire qu'on est bien aussi parce qu'on est bien entouré.
Tout à fait, c'est vraiment fondamental. Il y a ce qu'on va évidemment travailler, mais il y a ce qu'on a, et nos supports et le socle sur lequel on est appuyé.
Oui.
Plus on veut aller loin et plus on vise l'excellence et plus l'équilibre est absolument capital. Donc c'est une question essentielle. Quand l'un des paramètres qui nous environne, notamment la famille ou le couple ou sa vie professionnelle ou sa vie sportive, est en difficulté, effectivement, quand on vise l'excellence, on risque de se retrouver en déséquilibre.
Il suffit juste d'un petit grain de sable dans les rouages pour que pouf, ça...
Puis on monte.
Ouais.
Plus tout est important. Il n'y a pas un élément qui peut compenser l'autre.
Ouais.
Donc on est obligatoirement, même nous professionnels, enfin en tout cas moi, je suis attentive à tout le moindre détail de la vie d'un sportif. Pas uniquement sa vie sportive, pas uniquement ses résultats sportifs d'ailleurs.
Hubert Ripoll, dans le processus de résilience, ça aussi c'est absolument fondamental.
Absolument, l'équilibre... C'est notamment pour les personnes handicapées, c'est la recherche d'un équilibre. Et la recherche d'un équilibre est souvent beaucoup plus simple qu'on peut l'imaginer. C'est certainement pas dans la satisfaction de l'ego. Certainement pas dans la satisfaction de l'ego, dans une recherche de reconnaissance narcissique.
Mmh.
Que recherchent souvent les champions valides ? À la différence, les personnes handicapées sont d'abord dans un besoin d'accomplissement de soi, d'aller au bout. De faire en sorte que Michael Jeremias aujourd'hui soit meilleur que Michael Jeremias demain. Et si Michael Jeremias est toujours meilleur que ce qu'il était hier, alors il peut être le meilleur. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas tout mettre en œuvre pour être le premier. Ça veut dire que sa motivation est tout à fait différente. Ces champions m'ont paru beaucoup plus équilibrés que la Kyrielle,
ah oui,
de champion de très haut niveau. J'ai côtoyé plusieurs centaines de médailles d'or aux Jeux Olympiques. Et je peux dire que l'équilibre, je l'ai vraiment trouvé chez ces 24 champions en e-sport.
Michael Jeremias, pour répondre à Hubert Ripoll et Myriam Salmi.
Oui, moi je me trouve équilibré maintenant. Non, mais là où je vous rejoins, Hubert, c'est qu'effectivement quand vous venez d'avoir un accident de la vie, alors ça peut être une maladie de naissance, mais si je prends moi mon cas, le sport de niveau est arrivé un peu par accident. C'est-à-dire que bon, j'ai redécouvert le tennis en fauteuil après mon accident, et puis au bout de quelques années, je me suis rendu compte que j'avais un vrai potentiel et que j'étais bon, et donc je suis devenu champion. Mais en fait, mon combat quotidien, il a été d'abord avec moi. J'allais pas dire contre moi, mais avec moi, c'est-à-dire de réaccéder au bonheur. Et quels sont les outils pour accéder au bonheur? Ça a été de pouvoir faire ce que je faisais avant, mais pas forcément de la même manière, mais simplement ne pas me poser de questions de est-ce que ça je peux le faire, est-ce que je peux ne pas le faire. Mon grand frère m'avait dit un jour très justement, quoi, très de manière très aimante, à partir de maintenant, je suis tes jambes, là où tu veux aller, on ira. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis reconstruit effectivement par le sport, mais pas que. Je me suis reconstruit aussi grâce notamment à l'amour de mes proches et tout simplement de pouvoir m'accomplir en tant qu'être humain. Le sport était une des composantes de cet accomplissement. Et en fait, de manière très concrète, tous les jours, moi, je sais que ce que je fais, ça va bien au-delà de mon statut de sportif de haut niveau. Quand j'accomplis quelque chose, moi, j'appartiens à une minorité, je fais partie des très privilégiés de cette minorité, que sont les personnes handicapées. Et donc, je sais la responsabilité que je peux avoir. Et donc, en fait, moi, je me réalise en étant utile à la société, en étant utile aux autres. Ça n'était pas le cas au début. Au début, j'étais un athlète avec un ego, voilà, même si j'ai toujours de l'ego, mais il faut avoir de l'ego, mais j'étais un athlète égocentrique avec objectif d'être le meilleur et de battre les autres. Aujourd'hui, bon là je prends ma retraite à la fin de l'année, mais j'avais jusqu'au dernier mes derniers jeux à Rio l'objectif d'être le meilleur et de battre les autres. Mais il y avait des choses qui me dépassaient, le fait d'être porte-drapeau, cette responsabilité pour les autres aussi, cette espèce de rôle de porte-parole, qui fait que c'est aussi comme ça que je me suis reconstruit. C'est que je me suis reconstruit pas uniquement à travers moi et à travers uniquement ma petite existence. C'est que j'ai vécu d'un coup ce que finalement l'humanité vit, c'est-à-dire des drames de vie. Moi, c'est un accident physique, corporel. Pour d'autres, c'est la perte d'un proche, la perte d'un emploi. Moi, je l'ai connu jeune. Normalement, heureusement, on le connaît plus tard. Mais ça m'a complètement formaté, conditionné. Ouais. Et je pense que c'est ça aussi au quotidien qui fait que je suis quelqu'un d'heureux. C'est pas uniquement le fait d'être champion.
Qu'est-ce qui fait que vous avez eu la ressource justement de dépasser cet accident et d'aller ailleurs, c'est-à-dire de transformer ça justement pour en faire véritablement quelque chose? Où est-ce que vous avez puisé cette force au fond? Parce que tout le monde n'est pas égal à ce niveau-là.
Non, alors moi je vais pas faire ma psychanalyse sauvage maintenant, mais il y a plusieurs éléments. Alors évidemment l'entourage, moi j'ai un entourage extrêmement proche, un entourage intelligent, un entourage très sensible.
Donc il y a le socle, il y a la base.
Socle, évidemment, des parents, des frères qui ont toujours trouvé le bon dosage, la bonne attitude, la bonne position, de pas être trop présent, de pas être trop absent, de trouver le bon équilibre, de m'accompagner, de vivre à mon rythme. Et donc ils ont su très bien le faire, et donc ça, ben, tout le monde n'a pas cette chance-là. Et puis peut-être aussi un tempérament, voilà, moi je sais pas de quelle manière mes parents m'ont élevé, comment la société m'a formaté, mais je suis quelqu'un de profondément optimiste, donc je pense aussi que ça m'a aidé quand j'ai eu mon accident, de voir plutôt toutes les choses que j'allais pouvoir faire, et non plus celles que je pourrais plus jamais faire.
Myriam Salmi, pour réagir.
Oui, tout à fait. Alors, c'est toujours compliqué quand on parle de ces accidents de la vie, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient psychologiques, parce que il y a une phrase qui m'est assez insupportable, c'est l'idée de l'écho rend plus fort, hein, ou ce qui ne tue pas rend plus fort. Il se trouve que, parallèlement au monde sportif, j'ai travaillé dans des quartiers de Seine-Saint-Denis pendant 20 ans à m'occuper de gens, y compris des gros coups. Ben, il y en a peu qui s'en sortent, en fait, hein. Contrairement à ce qu'on... Alors ça, c'est un peu des phrases, quand on a baigné dedans, enfin en tout cas quand on a accompagné des gens en très grande souffrance, on sait que c'est pas le cas. Donc il faut faire attention de pas basculer en pensant, effectivement, par contre, ceux qui s'en sortent sont exceptionnels. Hein, ceux qui s'en sortent sont exceptionnels pour tout ce que vous venez de dire, Michael. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de paramètres, et bien sûr la personnalité de l'athlète, l'engagement, le courage, la ténacité. Donc, qu'on soit handicapé, chacun peut rencontrer des handicaps différents et pas cibler simplement sur un handicap, parce que pour moi, chacun est particulier. Alors je sais bien que quelqu'un qui a été fracassé de partout et complètement abîmé ressort de manière différente, mais ça reste avant tout un être humain. Et ce serait bien de, en tout cas pour moi, j'espère que je choquerai personne ici, qu'on ne cible pas sur cette différence, que la résilience, elle n'est pas liée au fait qu'on a été handicapé, mais à ce qu'on est, surtout et avant tout. Et que l'handicap crée et raccourcit le délai de maturité. Ils ont une maturité exceptionnelle, j'ai suivi des athlètes paralympiques, une maturité exceptionnelle et une vision du monde qui a changé et qui les encourage à se battre pour cette fois-ci quelque chose qui est concret.
Hubert Ripoll, il y a cette expression de Boris Cyrulnik, un merveilleux malheur, hein, pour parler justement des personnes handicapées, et qui justement arrive à retourner les choses, pour en faire là aussi quelque chose.
Absolument, j'ai souvent dans mes bouquins utilisé cette expression-là, mais c'était une image quand même. Et là, comment aller, moi qui suis valide, comment aller demander à des personnes handicapées, mais finalement votre malheur, il n'y a pas au bout du compte quelque chose de merveilleux. Non, mais on peut pas, on prendrait des claques, je les recevrais pas, ils accepteraient.
Bien sûr,
mais moi je ne pouvais pas le faire. Et heureusement, l'un d'entre eux, Benoît Pinton, a écrit un livre qui s'appelle « Le merveilleux malheur de Benoît Pinton ». C'est un triathlète qui a été gravement handicapé, enfin, et qui fait des performances extraordinaires. Et donc, j'ai saisi cette perche pour dire à tous les autres, l'un d'entre vous qui a eu tel accident de la vie a écrit un livre qu'il a appelé « Le merveilleux malheur de Benoît Pinton ». Qu'en pensez-vous ? Et qu'est-ce que... Finalement, tous m'ont dit « Oui, c'est un malheur ». C'est un malheur qu'on ne souhaite à personne. Rien n'est rose, tout est compliqué. Le corps est quelquefois et souvent un fardeau. Mais au bout du compte, de cette blessure, on en a fait quelque chose. Et oui, je peux reprendre à mon compte cette expression du merveilleux malheur. Là, chapeau Boris Cyrulnik, parce que... Oui, chapeau.
Oui, vous l'auriez posé la question autrement.
Et chapeau à 24 autres.
Allez, The Clash sur France Inter, et puis on se retrouve juste après avec les messages des auditeurs aussi. Vous allez pouvoir leur répondre pour ce dossier consacré au mental des champions.
Johan Diniz, comme inanimé au sol, lors du 50 km marche. Il est 13h quand le départ est donné, sous une chaleur étouffante. Diniz prend immédiatement la tête du marathon. À mi-course, il compte presque 2 minutes d'avance. Mais des problèmes gastriques assaillent le Français. Et quelques mètres plus loin, le triple champion du monde s'effondre.
On vous interrompt parce que là, il est en train de se passer quelque chose de dramatique. Ouais. Johan Diniz s'est écroulé.
Oui, Johan Diniz s'est écroulé, là.
À bout de force, Diniz se relève et repart pour s'arrêter. Encore.
C'est encore Johan, c'est encore Johan. Faut arrêter.
On s'inquiète. Quelle poisse pour Diniz. Abandon en 2008 au JO de Pékin, disqualification aux Jeux de Londres en 2012. Johan est donc maudit sur les JO. Le Français finira au mental Il passe la ligne à la 8e place, dans un 50 km marche qui met le spectateur parfois mal à l'aise devant l'état des concurrents. Johan Diniz finira à l'hôpital pour récupérer et y être réhydraté.
Voilà, c'était le 19 août à Rio, Johan Diniz. Alors, est-ce que là, justement, on n'est pas face, Hubert Ripoll, à un exemple de mental un peu trop fort, quasiment, sur ce sportif qui n'arrête même plus à s'arrêter dans des conditions critiques pour lui, hein?
Ben, comme l'a dit Myriam précédemment, être au top, c'est être un état limite, quelquefois borderline,
ouais.
Et on peut passer de l'autre côté. Alors, être borderline, ça leur permet d'entrer dans des états seconds, ce qui arrive ouais. souvent. Et pour Diniz, manifestement, il est passé de l'autre côté. Il a mal géré.
Myriam, Denis, justement, comment vous accompagnez les champions sur le terrain? Parce qu'ils ne viennent pas vous voir que dans votre cabinet, vous allez aussi avec eux, comme au JO par exemple. Comment concrètement vous travaillez alors à leur côté?
Alors, quand on est au jeu, ben, c'est comme eux, c'est un travail particulier. En fait, d'abord, le travail de fond, évidemment, on ne le fait pas au moment de la compétition. On est censé avoir tout fait, on touche à rien. Ce qui est important, c'est effectivement d'être plus sur la régulation émotionnelle. Hein. On apprend à pas se laisser emporter par la pression, par les sollicitations aussi, par les pressions, mais pas les siennes. Il y a aussi celle de l'encadrement, c'est normal. Hein. Mm-hmm. Ce sont aussi des êtres humains. Un entraîneur, c'est un être humain. Voilà, on est tous des êtres humains. Donc on apprend à gérer, à être plus en soutien, en référence, en... Voilà.
Hubert Ripoll, quelles conditions doivent être réunies justement pour accéder à la réussite? Ce qui ressort des propos que vous avez eus avec les personnes handicapées sportives que vous avez rencontrées pour le livre, là c'est quoi vraiment les dénominateurs communs?
On va dire la première chose, c'est un bon accompagnement. Certains sont complètement esselés mais ils ont des mains tendues. Il faut se poser la question de ce qui se passe dans une société qui n'est pas accompagnante et qui n'a pas de lien. La deuxième chose, c'est lorsque l'accident arrive, pour le cas des personnes handicapées tardivement, c'est d'être capable à un moment de laisser leur enveloppe précédente pour partir dans une nouvelle enveloppe. Et ils utilisent tous cette expression, tous. Il y a eu une renaissance. J'essaie de comprendre quel était le moment de la renaissance. Enfin, troisième chose, il faut que les émotions et l'imaginaire jouent à plein. Et il ne faut pas que le rationnel l'emporte. Le rationnel, c'est je peux aller bien, mais l'imaginaire, c'est je peux aller ailleurs.
C'est le rêve actif, hein, c'est ça, pour reprendre encore Boris Cyrulnik.
Et il y a là des moments extraordinaires et qui font que l'imaginaire et les émotions permettent d'aller vers l'avant et d'aller à la recherche de plaisir et d'être un être désirant, ce qui me paraît fondamental.
Et vous dites, pas de déni ni de refus du handicap. Évidemment, ça paraît évident quand on a envie d'aller très très loin, justement, dans un domaine particulier. Et puis, vous dites aussi, l'engagement, être militant, ça aussi, c'est
alors,
quelque chose qui...
Sur les 24, il y a 24 qui, à différents niveaux, sont des militants.
Ouais.
J'ai dû travailler avec près de 200 champions de très haut niveau. Sur les 200, je ne me rappelle pas qu'il y en ait eu un, peut-être Laura Flessel, mais à la fin de sa carrière. Bon, voilà. Toute la différence est là.
Michael Jérémiaz, alors vous êtes militant, vous êtes engagé. L'association, par exemple, on le disait tout à l'heure, hein, comme les autres. C'était essentiel aussi pour vous, pour aller plus loin?
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un moment de se rendre compte que malgré cet accident de la vie, on est des privilégiés. Là, on parle de sportifs de haut niveau handicapés, comme moi. Je ne parle pas des personnes handicapées de manière générale. Moi, j'estime être un privilégié. Ça ne veut pas dire que c'est tombé du ciel et que je ne me suis pas battu pour. Mmh. Mais je suis un privilégié au regard de ce que c'est le quotidien d'une personne, d'un Français, au-delà des personnes handicapées. Dans la société, je suis quelqu'un que j'estime être privilégié. Ne serait-ce parce que déjà je suis heureux et parce que j'ai accès au logement, à l'eau potable, à l'amour aussi, à la parentalité, à un certain nombre de choses. Et donc oui, à un moment, et ça c'est la maturité, c'est aussi un peu le regard qu'on pose un peu sur son parcours, sur sa vie, c'est de se dire, ouais, effectivement, bah, j'ai bénéficié de pas mal de choses depuis que je suis né, mais aussi depuis cette deuxième naissance, cette renaissance, parce que moi, je célèbre chaque année la naissance, comme ma renaissance, mon accident. Alors, pas avec mes parents, parce que pour eux, c'est encore trop dur, et ce le sera tout le temps, mais avec mes frères, je fête tous les 11 février. Donc là, je vais bientôt avoir 17 ans l'année prochaine. Et ce que je veux dire, c'est que oui, effectivement, ce que vous dites sur les 24 personnes que vous avez rencontrées, les 24 sportifs handicapés, on est un certain nombre à vouloir s'engager pour les autres parce qu'il y a eu une prise de conscience dans notre parcours à un moment que qu'on avait en fait les moyens d'aider ceux qui, comme nous, ont vécu quelque chose de dramatique. Et effectivement, alors il y a peut-être un peu plus maintenant que sur les 200 que vous avez vu, un peu plus de personnes impliquées. Alors peut-être pas autant, mais il y a de plus en plus d'athlètes à qui on demande d'être parrain de telle ou telle association. Et c'est une prise de conscience notamment parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie proximité entre le monde olympique et paralympique. Et donc nous, on les emmène avec nous. Et moi, je rencontre de plus en plus de sportifs de niveau valide, finalement, qui ont envie de le faire à travers ce qu'ils ont vécu avec nous, parce qu'ils se rendent compte qu'on fait exactement la même chose, simplement dans une position un peu différente.
Il y a un courriel de Nadine Nadine qui nous dit ceci. La carrière des sportifs étant courte, comment réinvestir les aptitudes mentales acquises dans le sport de haut niveau dans un contexte professionnel différent? Myriam Salmi, vous faites aussi ce travail de transition auprès des champions?
Alors, il y a des gens plus compétents hein, sur les matières professionnelles que moi, oui. Mais par contre, sur le plan psychologique, oui. Alors, ça tombe bien, c'est ce que je voulais dire quand j'entendais Hubert et Michael parler. Il faut rappeler, en tout cas, moi, c'est ce que ça fait 33 ans, plus de 25 ans que je suis dans le milieu du sport de haut niveau. J'ai entendu des milliers de champions et d'athlètes de haut et très haut niveau. Et en fait, une des caractéristiques... Ça ne va pas plaire à Michael, encore une fois, mais c'est une réalité scientifique. C'est l'intelligence. Et on parle peu de leur intelligence. Hein. C'est très rare. On parle de l'intelligence des sportifs de haut niveau.
Allez-y, parlez-en.
Oui, non, mais ça donne...
L'intelligence des sportifs, je pense à priori.
Alors, oui, non, mais c'est pas fini. Alors, moi, je maintiens un peu plus loin qu'on a à faire. Il faudrait trouver le mot, parce que surdoué, c'est pas beau, parce que précoce, c'est pas beau. Il faudrait trouver un terme qui résume le fait que ce sont des gens qui vont... très vite dans la compréhension, très vite dans l'exécution, ils ont une hyper-sensibilité qui est liée à leur intelligence émotionnelle. Avant, on parlait que de l'intelligence intellectuelle. Aujourd'hui, on s'intéresse à d'autres formes d'intelligence. Et du coup, effectivement, ils sont mieux équipés, entre guillemets, quand autour aussi, il y a un environnement favorable à s'engager dans une autre vie ou aussi à s'engager... de par la sensibilité.
Michael Jérémias, vous êtes à la retraite, là, quasiment, hein, vous l'avez annoncé. Il y a encore un tournoi en Californie, là, en novembre. Donc, vous préparez aussi mentalement cette nouvelle vie qui va arriver?
Oui, alors je ne sais pas si je le prépare mentalement. En tout cas, ça fait des années que je prépare ça, que je prépare justement cette reconversion. Parce que, en tant que sportif de haut niveau, joueur de tennis handisport, je suis pas les mêmes revenus que mes équivalents valides. Mais oui, moi, ça fait partie des choses que j'ai voulu anticiper parce que la reconversion des sportifs de haut niveau, c'est un vrai problème, c'est une vraie problématique. Il y a des sportifs qui se retrouvent dans des situations extrêmement précaires, alors qu'ils ont été pour certains même champions du monde. Et en fait, moi, l'idée, c'est ma valeur ajoutée, c'est justement de me servir de cette expérience de sportif de niveau et de ce que vous venez de dire, de toutes ces 15 années en tant que sportif de niveau, pas uniquement de cette intelligence émotionnelle, mais aussi de cette intelligence intellectuelle, quoi, j'espère, c'est de la mettre à contribution de mes engagements, que ce soit engagement associatif, mais aussi des entreprises que j'ai cofondées, et notamment faire du conseil en entreprise, où j'accompagne. Alors, je ne suis pas coach mental, je ne m'invente pas justement des compétences, je laisse les professionnels le faire, mais voilà, c'est de se faire ce lien le mieux possible.
Hubert Ripoll, finalement, la leçon, la morale de cette histoire que vous nous enseignez dans ce livre La résilience par le sport et que vous enseignez les sportifs handicapés eux-mêmes, c'est qu'on n'est pas obligé d'être sportif de très haut niveau justement pour entrer en résilience. Hein.
Alors j'ai fait un complément d'enquête avec 24 autres qui sont des sportifs disons tout venant entre guillemets
c'est ça, ouais.
Et sur deux questions essentielles qui sont: pensez-vous avoir accédé au bonheur et pensez-vous vous être accompli? J'ai exactement les mêmes types de réponses que pour les sportifs de niveau. Ce qui veut dire que dès lors qu'on accepte de faire quelque chose avec un corps blessé, c'est que déjà, on est en train de résilier.
Et ça s'appelle La résilience par le sport. C'est aux éditions Odile Jacob. Merci Myriam Salmi. Michael Jérémias, ça s'appelle Comme les autres. C'est votre association avec un site internet hein, pour ceux qui souhaitent.
Comme les autres-asso.org.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci d'être venus dans ce dossier de la tête au carré. Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour.
Affaires sensibles, le thème aujourd'hui, s'il vous plaît.
La vague de suicides chez France Télécom entre 2008 et 2010, c'est notre invité. Elle s'appelle Marin Lodin. Il a subi le harcèlement moral de France Télécom. Il s'en est sorti, mais évidemment, et vous l'imaginez, très difficilement.
Une autre affaire de résilience peut-être. Allez, à tout à l'heure.